sang de Jésus. Et tous ont dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon nom est Danny Desrosiers. Je suis un des leaders ici. C'est moi qui vais apporter la parole ce matin. Et merci à Pasteur David pour l'opportunité, le privilège. Et ce matin, on va regarder quelque chose qui, je l'espère, saura vous donner une plus grande appréciation encore pour le roi des rois, notre Seigneur Jésus. Amen. Et je vais apporter un message que j'ai donné le titre « Connecté avec le Verbe ». Pour ceux qui sont bons en français, vous allez aimer ça. Ceux qui sont moins bons en français, vous allez dire « Non, pas de la conjugaison un matin ». Donc, j'ai une question pour vous ce matin. Si j'étais pour vous poser une question et puis que je vous demandais, dans toute langue confondue, quel serait le verbe le plus important? Aimer, être, pardonner, créer, louer, adorer, dormir, entendu dormir. Jésus. Pour Francine, ce serait dormir, parce que pauvre elle, elle a de la misère à dormir. Pour elle, ce serait précieux. J'aimerais vous suggérer ce matin que la majorité de vos réponses sont bonnes, mais pas tout à fait ce que je cherchais. Parce qu'en fait, quand on y pense comme il faut, toutes les choses que vous avez nommées, ce sont des actions. Aimer, c'est une action. Pardonner, c'est une action. Louer, c'est une action. Mais pour faire des actions, il faut tout d'abord être. Donc, j'aimerais vous suggérer que le verbe le plus important, c'est être. D'abord, être. J'existe, donc je suis. L'espace existe, donc elle est. Le temps existe, donc il est. La matière existe, donc elle est. Puis pendant le 20e siècle, puis faites-vous-en pas, je ne peux pas vous parler de trop de science, c'est juste mon introduction, mais avec, entre autres, Albert Einstein puis Edward Hubble, vraiment, puis l'étude de la cosmologie, le monde scientifique en est venu à une conclusion. Que l'univers, elle prend de l'expansion, puis que cet univers-là, eh bien, elle n'est pas éternelle. Avant, on disait la création est éternelle, mais maintenant, la science démontre que l'univers a eu un commencement. Avant le début de l'univers, donc, il n'y avait rien. Rien, c'est rien. Rien n'est pas. Et parce que rien n'est pas, rien ne peut rien faire. Rien ne peut pas agir. Rien ne peut pas aimer. Rien ne peut pas créer. Avant d'être, je n'étais pas. Mais mes parents étaient. Et ils ont pu me concevoir. Francine, c'est la faute à mes parents. Si j'existe. Ou gloire à mes parents si j'existe, selon ton point de vue. Donc, la cause de mon existence, c'est mes parents. Mais rien ne peut rien concevoir, ne peut rien faire, ne peut rien créer. Là, vous allez me dire, Danny, j'ai rien compris. Mais mon but, ce n'est pas que tu sortes d'ici en disant « j'ai rien compris », mais que tu me dises « j'ai compris rien ».
Amen.
Et que tout ne vient pas de rien. Si l'on accepte le fait qu'à partir de rien, rien ne peut devenir, si l'on accepte que tout ce qui existe vient de quelque chose d'autre, que le rien total n'a jamais existé, la seule conclusion logique, c'est que l'existence du temps, de l'espace et de la matière provient de quelqu'un. La seule conclusion logique, c'est que l'existence du temps, de l'espace, de la matière est la conception d'un être qui a toujours été.
Amen.
Qui a toujours été en dehors de notre espace. C'est un être éternel. C'est un être immatériel ou un esprit. C'est un être tout-puissant. C'est un être hyper intelligent quand on le considère dans la précision de l'univers. C'est un être rempli d'amour pour avoir créé un endroit si glorieux où nous pouvons habiter. C'est un être qui ne dépend de rien pour être. Il n'a pas de cause. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que cette description, elle correspond parfaitement et totalement à la description que nous fait la parole de Dieu de la personne de Jésus-Christ. Un être éternel, tout-puissant, qui ne dépend de rien ni de personne. Jésus-Christ nous est effectivement présenté dans la parole comme cet être créateur de toutes choses. Colossiens 1 nous dit ceci, verset 12. Grâce, rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et juste pour faire un petit commentaire ici, premier-né n'est pas dans le sens de first ou le premier, c'est dans le sens de premier au-dessus de tout. Comme le premier ministre du Canada n'est pas le premier ministre du Canada, il est le premier ministre parce qu'il est au-dessus de tous les autres ministres. Et lorsqu'ici, quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, c'est qu'il est au-dessus de tout. Car lui, en lui, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste ou retire leur vie en lui. Et comme on l'a vu la semaine dernière, lorsque notre doyen académique de l'IBQ nous a visités, une des questions fondamentales concernant la personne de Jésus, c'était son identité. Qui est Jésus? Et la réponse à cette question se posait pendant que Jésus était sur la terre. Et c'est Jésus, lors d'une rencontre avec ses disciples dans le territoire de Césarée, de Philippe, qui leur a posé la question suivante dans Matthieu 16, verset 13. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et depuis ce temps-là, des siècles se sont écoulés et cette question a résonné parmi les hommes au cours des siècles. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour les apôtres, il était ce roi qui venait déclarer la guerre et rétablir le royaume d'Israël. Pour les chercheurs, il est un personnage historique réel, confirmé par l'archéologie et l'histoire. Pour les idolâtres, il est une image vénérée. Pour certains, il est le petit Jésus dans la crèche. Pour d'autres, il est petit Jésus de plâtre sur la croix. Pour l'islam, il est le plus grand des prophètes. Pour le témoin de Jéhovah, il est un être créé. Mais pour toi, qui est Jésus? À cette question, Pierre a fait une grande déclaration. Et on le voit dans Matthieu 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Depuis cette réponse de Pierre, qui a été validée par Jésus lui-même, cette déclaration est également ma réponse. Et la réponse de milliards de personnes qui ont vécu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et cette compréhension ne vient pas de mon intelligence, elle m'a été révélée par le Père. C'est pour ça qu'on dit que le salut, c'est le plus grand des miracles. Ça prend une révélation du Père qui nous révèle qui est ce Jésus, ce Fils de Dieu, ce Sauveur. C'est Père qui nous le révèle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Effectivement, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais il est également celui qui était, qui a été, qui est et qui sera éternellement. Ça m'amène à vous parler d'une doctrine, encore des doctrines d'Annie Tétanin, doctrine fondamentale du christianisme, la préexistence de Christ. Jésus, et je ne vais pas aller dans des détails trop compliqués, mais Jésus, de façon consistante, a parlé de ses origines éternelles. Il a toujours été. Christ était. Jésus, avant de naître, était. Jean 3,12 nous le confirme. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses terrestres ?» Céleste. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 16, au verset 27, nous dit ceci, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne au Père. Jean 17,1 nous dit ceci, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. » Dans l'éternité, Jésus était et il reflétait parfaitement la gloire du Père en tout temps. Il vivait parfaitement avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme une communion. Et ça, la Trinité, c'est difficile à comprendre, j'en conçois, mais c'est évident dans la parole. Avant de s'être incarné, de venir sur terre, Jésus-Christ était. 2 Corinthiens 8,9 nous le dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté, que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Sa pauvreté, elle n'était pas matérielle. Sa pauvreté, c'était de se faire homme, de dépendre de sa mère pour sa nourriture, lui créateur de toute nourriture, d'être limité dans un corps, lui le roi illimité. Sa pauvreté n'était pas matérielle, de même, sa richesse n'était pas matérielle. Bien qu'il ait créé et qu'il possède toutes choses, tout ce qui est matériel. Christ était et est toujours riche en sagesse, car Christ est la sagesse de Dieu. Christ est riche en puissance, il est riche en amour, il est riche en gloire, il est riche en ressources, tout lui appartient. Il est riche en puissance, il peut tout accomplir. Il est riche en créativité, il est riche en diversité, couleur, odeur, goût. Il est riche en ingéniosité, c'est un génie. Un génie du minuscule au majuscule, la création est ingénieuse, conçue par Jésus-Christ.
Amen.
Il est riche en science, en mathématiques, en physique, en chimie. Il est l'auteur de la science. Et la science ne renie pas Dieu, elle confirme Dieu. Et il n'y a aucun autre, aucune honte pour ceux qui sont à l'université de dire que vous êtes croyants, parce que la foi en Christ est beaucoup plus logique que la science. Jésus-Christ est l'auteur de la science. Et si on l'a découvert par cette science et qu'on savait qu'il était un Dieu d'ordre et qu'en étudiant son univers, on pourrait trouver la création, le créateur de la création. Il est riche en exécution. Il prononce et la chose devient.
Amen.
Romains 1, 20 nous dit ceci. Il est riche en perfection. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il est bon de prendre du temps dans la nature et de voir la gloire de Dieu dans ses ouvrages. Prenez le temps de sentir les roses. Prenez le temps de voir le papillon atterrir sur une fleur. Prenez le temps de voir l'érable couler de l'érable, le sirop d'érable couler de l'érable. Prenez le temps d'observer les flocons de neige. Il y a un ami à moi, là, il fait ça. Il prend des photos de flocons de neige. Hey, quand il me dit ça, il dit, hey, il y a du temps à perdre, le gars, là, ça n'a pas d'allure. Mais quand il m'a montré ses photos, waouh, il n'y a pas un qui est pareil, puis chacun d'eux, un vrai bijou. Incroyable. La créativité de notre Créateur. Prenez le temps de sentir les fleurs. À propos de Jésus, la lettre aux Colossiens nous dit ceci, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. On peut donc conclure que puisque tout a été créé par Jésus et pour Jésus, puisque sa puissance, elle est éternelle et que la divinité de Jésus se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, comme on le voit dans ses ouvrages, cela veut dire que depuis la nuit des temps, Christ était. Il est cet être éternel qui n'a aucune cause, qui ne dépend de rien, dont rien ne le précède. C'est pour ça que dans Jean 8, 56, lorsqu'ils s'adressaient au peuple juif, ils ont dit « Abraham, votre père, Jésus a dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans, puis tu as vu Abraham. » Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus s'est identifié comme le grand « Je suis ». Je suis, tout comme dans la réponse que Dieu a donnée à Moïse dans Exode 3, 14, lorsque Moïse a demandé à Dieu, « Mais s'il me demande qui ce que t'es, c'est que je vais lui dire. » Il leur dit, tu leur diras dans Exode 3:14, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. En d'autres mots, Jésus était en train de dire aux Juifs, je suis. Je suis qui je suis. Je deviendrai ce que je choisirai de devenir. Je suis ce que je suis. Je serai ce que je serai. Je crée ce que je crée. Je suis celui qui existe. I am. Je suis. Je suis. Il est le verbe être. En d'autres mots, je suis le verbe être car je suis en tout temps. Indépendamment des époques, je suis. Indépendamment des croyances, je suis. Indépendamment des opinions, je suis. Indépendamment des saisons, je suis. Des problèmes, je suis. Je suis. Je suis le début, car je suis l'alpha. Je suis la fin, car je suis l'oméga, le premier et le dernier. Puis le temps, l'espace et la matière ont été créés. Le temps lors du au commencement. Dieu a créé l'espace pour y mettre la matière, puis finalement, tout ce qui est matière, qui occupe l'espace, il était avant le temps, mais depuis que le temps est, Christ est. Christ est en dehors de l'univers. Il est en dehors du temps. Et un jour, il créa le temps. Ça commence là. La création, là. L'espace, là. L'espace pour mettre les choses. Et depuis, il est. À la création du monde, il est. Lorsqu'il est venu sur terre, il est. Il est. Il est. Parce qu'il est en dehors du temps. Et pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais lorsqu'on le visualise comme ça, Jésus est en dehors de l'espace, en dehors du temps. Il est en toute chose. Il est tout le temps. C'est toujours le présent pour lui. Et un jour, on le rejoindra et nous serons également. Christ était présent avant le temps. Mais Christ a aussi été présent au début des temps. On voit Christ dans l'Ancien Testament avant sa naissance. Pas en chair et en os, mais on voit Christ. Dans plusieurs contextes, selon plusieurs théologiens, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, donc si vous en voyez un qui n'est pas d'accord, venez pas me tirer des roches. Les théologiens se débattront. Moi, je fais juste dire qu'est-ce que le consensus est. On ne va pas chicaner pour ça. Mais il semble évident, d'après le contexte, que l'ange de l'Éternel, en fait, souvent, était associé à une apparition de Christ. C'est ce qu'on appelle une théophanie, apparition de Christ. Et la base pour cette affirmation, c'est que le fait que l'ange de l'Éternel, en hébreu, se traduit comme « Malak Yahweh ». Malak pour messager et Yahweh pour Dieu. Mais tous les autres anges, c'est Malak. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Malak Yahweh. Puis dans certaines circonstances, on attribue à ces anges ou à l'ange de l'Éternel des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Comme par exemple dans Genèse 17, lorsque l'ange a dit à Abraham, « Je te multiplierai à l'infini. Seul Dieu peut multiplier et donner la vie. » Il est omniscient lorsqu'il est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, puis qu'il a dit, « J'ai vu la souffrance de ton peuple, il connaît toutes choses. » Agar l'a nommé Dieu, on peut le lire dans Genèse 16, verset 11. « L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela, cet ange de l'Éternel-là, Atta El Roi, qui veut dire « Tu es le Dieu qui me voit ». Le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï-Roï. Il est entre Kadès et Bared. Jacob aurait lutté avec lui lorsque Jacob a lutté avec un ange. Il dit, « J'ai vu Dieu face à face. » Josué se prosterna devant lui. Voici un homme se tenant debout devant lui, avec son épée en main, et il se prosterna devant lui. Christ était également présent lors de la sortie du peuple d'Égypte. Et ça, on ne peut pas argumenter ça. On le voit clairement dans 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Nébuchadnezzar l'a vu dans la fournaise, ce quatrième homme avec Shédrach, Meshach et Abednego. Dans l'éternité, Jésus était, depuis que le temps étant, Jésus a été sous la forme d'un homme. Mais lors de son incarnation, il s'est fait homme. Il est le Verbe incarné. Il est le Dieu fait homme. Le Père l'a envoyé. On voit ça dans Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et on connaît tous Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière dans les ténèbres, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ était. Jésus-Christ a été. Il a été dans les récits de l'Ancien Testament sous forme d'homme. Il a été fait chair. Il a été parmi nous. Il a été tenté en toutes choses. Il a été saint en toutes choses. Il a été le reflet parfait du Père en tout temps. Il a été compatissant. Il a été le sommelier par excellence, changeant l'eau en vin à la noce de Cana. Il a été médecin pour les lépreux, les paralytiques et les aveugles. Il a été sans pitié pour les démons. Il a été l'hôte d'une multitude avec 5 pains et 2 poissons. Il a été la source de calme dans la tempête. Il a été abusé. Il a été abandonné. Il a été meurtri. Il a été bafoué. Il a été trahi, il a été craché dessus, il a été couronné d'épines, il a été crucifié, il a été sacrifié. Que ta volonté soit faite et non la mienne a été ce qui le conduisait en tout temps. Et cela, c'est un exemple pour nous. Ta volonté soit faite, Père, et non pas la mienne. Il a été enterré. Mais parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est donc avec nous aujourd'hui. Oui, il était, oui, il a été, mais il est encore aujourd'hui avec nous. Il est assis à la droite du Père. Il est mon substitut, il est mon sauveur, il est ma délivrance, il est mon intercesseur, ma lumière, ma vie, la vérité. Il est ma source où j'abreuve mon âme. Il est mon refuge. Il est ma haute retraite. Il est ma forteresse, mon abri, mon avocat auprès du Père, qui me défend, qui plaide en mon nom. Il est mon espoir suprême. Il est ma consolation. Il est là quand je pleure. Il est là quand je souffre. Il est là quand je prie. Il est là quand je ris. Il est là quand le médecin m'annonce une mauvaise nouvelle. Il est là à mon travail. Il est là à mes études. Il est là ici ce matin. Amen. Il est là. 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 Quand tu me dis, j'ai prié pour toi. Il est là quand tu fais un geste d'amour envers quelqu'un d'autre. Il est pleinement suffisant. Il est pleinement satisfaisant. Et plus on se réjouit dans Jésus-Christ, moins qu'on a de désir pour autre chose. Parce que Jésus-Christ est satisfaisant. Il est le Verbe incarné. Je suis celui qui est. I am that I am. Soy lo que soy. Nico ambae Nico. Pour les Swahili, ils ont compris, eux. Je les ai demandé avant de le dire. Il est le Verbe être éternellement. Il est le Christ, oui. Il est le Fils du Dieu vivant, oui, comme Pierre l'a si bien déclaré. Mais il est également le Créateur de toutes choses, le grand Je suis. Il est celui par qui tout est. Il est le seul qui peut faire en sorte que je suis. Sans lui, je ne suis à rien. C'est pourquoi il a déclaré, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce que sans lui, nous sommes morts. Et quelqu'un qui est mort, la dernière fois que j'ai checké, il ne peut rien faire. Amen. Tout comme rien. Pour faire quelque chose, il faut être. Et sans lui, on n'est pas. Car sans lui, on est mort spirituellement. Nul ne peut être sans lui qui est le Créateur et celui qui soutient toute chose. Mon souffle de vie dépend de lui. Je n'ai rien à m'enorgueillir. Je n'ai rien à m'enorgueillir, ni d'un titre, ni de connaissance, ni de rien, car tout me vient de Christ. Mais lorsque nous venons à celui qui est, lorsque nous connectons avec le Verbe incarné, nous pouvons aussi être. Être. À être né de nouveau, non pas de ma volonté, mais de la volonté de Dieu. À être enfant de Dieu, à être pardonné, à être racheté, à être sanctifié, à être libéré pour être capable de servir, être capable d'aimer, être capable de pardonner. Amen. Shakespeare a dit, être ou ne pas être? Telle est la question. Et à cela, je vais répondre, si tu veux être, tu dois connecter avec l'être Telle est la réponse. Amen. Tu dois venir à lui afin de renaître pour être. Amen. Reconnaître qu'il est l'auteur et le créateur de toutes choses. Celui par qui tu peux être réconcilié avec le Père. Par la repentance, le pardon de tes péchés accompli par celui qui est le substitut, qui a subi le jugement de tes péchés à ta place. Jésus était. Jésus a été. Jésus est. À ce moment-ci, je vais demander aux musiciens de s'avancer tranquillement. Puis je pense que je vais changer votre horaire un petit peu. Je vais vous demander de fredonner ou de jouer tranquillement. Jésus, tu es. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est « Et vous? Qui dites-vous que je suis? » Pour moi, tout comme Pierre, je crois que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais je crois qu'il est également le Verbe être incarné. Il est le grand « Je suis » de la parole de Dieu. Il est cet être en dehors de notre espace, mais présent au milieu de nous. Il est cet être éternel, mais avec nous aujourd'hui. Il est cet être immatériel, il est cet esprit, mais il habite dans nos cœurs. Il est un être tout-puissant, mais il est doux et humble de cœur. Il est un être hyper intelligent. Quand on considère la précision de l'univers, mais qui pardonne nos imprécisions et nos fautes. Il est un être rempli d'amour qui a créé un endroit si glorieux pour notre plaisir. Un être qui ne dépend de rien pour être, puis qui nous fait co-héritier avec lui. Héritier de toutes choses. Parce qu'il était, parce qu'il a été, parce qu'il est, on peut avoir cette assurance qu'éternellement, il sera. Il sera de retour dans les airs. Il sera visible. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il sera sur un cheval blanc, il nous prendra avec lui. Il sera roi des rois, seigneur des seigneurs. Il sera également juge pour finalement accomplir la justice. La justice sera rendue. Mais éternellement, il sera notre merveilleux conseiller, notre Dieu fort, notre Père des siècles. Il sera éternellement notre lumière, notre gloire, notre unité, notre perfection, notre amour, notre bonheur éternel, le sujet de notre adoration éternelle. Il est notre futur, et notre futur, il est glorieux. Il était, il a été, il est et il sera. Voilà pourquoi il est celui qui est. Amen. Je suis celui qui est. Voilà pourquoi il est le grand je suis. Le Verbe des Verbes. Le Verbe incarné. Et toi? Si tu es en lui, tu seras éternellement dans sa présence, donnant gloire à celui qui est éternellement. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais de la même manière le verbe être. Et que vous allez chérir ce verbe. Et que vous pourrez dire, parce qu'il est, je suis. Parce qu'il est, nous sommes. Parce qu'il est, nous passerons l'éternité avec lui, dans la présence du grand Je suis. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu es ce Verbe incarné, que bien que dans notre société aujourd'hui, on se moque de ceux qui croient en la création, nous, nous voyons dans la création le Créateur glorieux de l'univers, Jésus-Christ, le Verbe être, le Verbe incarné, qui s'est humilié, qui a fait une incursion parmi les humains dans notre univers, qui est venu, qui est apparu, qui s'est manifesté, qui s'est révélé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui a préservé ce message pour qu'il se rende jusqu'à nous aujourd'hui. Tu as préservé ta parole, tu as préservé, Seigneur Dieu, ton Église. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes fiers de croire en Jésus-Christ. Nous sommes fiers de proclamer que tu es le grand Je suis, que notre raison d'être, c'est l'être suprême qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Mets la joie dans les cœurs et que chacun de nous, on puisse se réjouir en toi parce que tu es pleinement satisfaisant, Seigneur. Tu es pleinement suffisant, Seigneur. Ta joie, Seigneur, ton salut, Seigneur, est la source de ma joie. Ta personne, Seigneur, ton œuvre est la source de ma joie et de mon bonheur. Car malgré les épreuves, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, Seigneur, malgré les embûches, malgré les moqueries, tu es. Tu es. Tu es. Tu es là au milieu de nous. Tu es là dans mon cœur. Tu es là dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là sur la montagne, Seigneur. Tu es là dans la tempête. Tu es là lorsque le soleil brille, Seigneur. Tu es là en tout temps pour moi, Seigneur. Pour nous, pour chacun de ceux qui se confient en toi, qui recherchent leur espoir en celui qui est. Bénis ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.